Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Vous êtes dans Bienfait pour vous, nous sommes en direct avec vous pendant une heure jusqu'à midi et ce matin on a décidé de s'emparer d'un sujet de société dont on parle de plus en plus. Lequel Mélanie ?
On va parler de contraception et si c'était autour des hommes. On va se poser la question ce matin car lorsqu'on dit contraception, les premiers mots qui nous viennent en tête, ce sont stérilés et pilules, grosso modo, donc des affaires de femmes. Eh bien c'est peut-être sur le point de changer. Des méthodes pour les hommes sont à l'étude. Slip chauffant, pilule masculine, gel, où en est-on réellement, y compris du côté des mentalités? On fera le point avec nos invités. Thomas Rixins, alias Bobica, auteur du livre Le cœur des hommes aux éditions Matin, ainsi que le professeur Eric Huyg, chirurgien urologue andrologue au CHU de Toulouse.
Après cela, à 11h45, ce sera le quart d'heure de nos bienfaitrices du jour. Avec Cécile Coumeau, on ira faire un tour dans un café philo, des lieux dans lesquels on peut tous en fait participer à des débats philosophiques. Pas besoin d'être Kant ou Descartes pour aiguiser notre esprit critique, vous verrez cela. Et puis à l'approche de midi, on sera rejointe aussi par Philippine Darblay, qui va nous initier aujourd'hui à la beauté à la brésilienne. En fait, de plus en plus de produits cosmétiques s'en inspirent, et c'est pas juste pour avoir de belles fesses. On va découvrir tout ça à la fin de l'émission.
Europe 1.
Vous écoutez Bienfait pour vous sur Europe 1, on vous accompagne avec grand plaisir tous les matins jusqu'à midi. Et comme tous les jours, on va lancer cette émission avec le regard affûté de notre cher Clément Lanoux. La contraception masculine, ça vous a inspiré? Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Pour une fois, un sujet qui me concerne, je suis un homme effectivement. Et beaucoup trop de personnes malheureusement pensent que la contraception est un truc de fille, voire même un problème de fille. Je me rappelle très jeune quand on était adolescent et qu'on voyait un garçon partir avec une fille dans un coin de soirée. Une fille d'un soir, on lui disait toujours « pense à te protéger ». Il nous est inquiète. J'ai filé un faux numéro. Ça, c'était horrible. Mais aujourd'hui, on est en 2022. Et oui, monsieur, messieurs, si vous voulez être tendance en 2022, la virilité, c'est autre chose. C'est clairement de s'intéresser aux autres et comprendre que la contraception, ça concerne deux personnes. Enfin, dans un couple, si vous êtes un trouble, ce sera trois personnes. Et ainsi de suite. Donc, je suis désolé. Aujourd'hui, on va un peu malmener l'ego des messieurs. L'ego masculin, vous savez que c'est très important. Je vais peut-être trahir un secret, mais vous savez que les préservatifs extra larges, c'est juste pour l'ego des hommes. Hein. J'en ai acheté un quand j'avais 15 ans pour faire des grosses bombes à eau. J'ai rempli d'eau, on peut rentrer un chat à l'intérieur. Un chat.
Ça n'existe pas.
Un pénis de la taille d'un chat, ça n'existe pas. C'est pour vous rassurer. Donc on va arrêter, on enlève toutes ces pincettes. Et maintenant, on va voir toutes les solutions qui existent. Évidemment, il existe... Le retrait, oui. On est en train de faire l'amour, on se retire. C'est important, ça fait partie des solutions.
Bien sûr.
Le préservatif masculin, avoir des rapports sexuels avec des personnes beaucoup plus âgées que vous, ça, pour ne pas avoir d'enfants, ça fonctionne.
Ça marche bien. Hein.
Je plaisante, ouais. Non. Mais je vais aborder le mot dont on va parler aujourd'hui, le mot qui fait peur, vasectomie. Mmh. Pourtant, il pourrait être mignon ce mot. Il y a deux mots cool dedans, il y a le mot vase, ça fait penser aux fleurs, et Tommy, on dirait un petit chien. Tommy. Vasectomie, c'est tout de suite moins drôle, finalement, c'est la solution. Alors peut-être un peu radical dans le sens définitif. C'est un petit peu comme se faire tatouer le prénom d'une personne avec qui on est depuis une semaine. Il faut réfléchir parce qu'on peut revenir en arrière, c'est compliqué. Voilà, il existe aussi d'autres méthodes. Il y a les anneaux, il y a les hormones, on va en parler. Mais j'aimerais aborder le plus sympa d'entre eux, le slip chauffant.
Oui.
Le slip chauffant, j'espère que vous en parlerez pendant cette émission. Je crois que c'est pas hyper cher, contrairement à, par exemple, chez Citroën. J'ai regardé les sièges chauffants, c'est en option. 3000 euros pour les avoir.
Non, je pense que c'est moins.
C'est un peu moins cher. Ouais. Et puis, voyez la sensation que ça fait dans le dos. Imaginez à cet endroit-là, c'est vrai que ça peut être pas mal. Voilà, donc je suppose qu'il existe plein d'autres situations. Donc, même si homme comme femme, le meilleur moyen de contraception, ça reste partir en vacances avec des amis qui ont plein d'enfants, vous verrez, ça calme les envies de se reproduire.
Merci beaucoup Clément Lanoux. On va à présent donner la parole à nos invités du jour, celui qui est en studio avec nous. D'abord, Thomas Rixins, alias Bobica, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre Le cœur des hommes aux éditions Matin. Alors, avec nous également, il y a le professeur Eric Huyg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien, urologue, andrologue au CHU de Toulouse et donc en ligne avec nous. Professeur Huyg, on parle ce matin de la contraception masculine, un sujet qui est depuis quelques temps sur le devant de la scène. Mais déjà, selon vous, pourquoi est-ce que la contraception a été depuis le départ une affaire féminine? Est-ce qu'il y a une explication, en tout cas la vôtre?
La contraception n'a jamais été une question purement féminine, mais c'est vrai qu'il y a eu un arsenal de médicaments qui ont été développés depuis une cinquantaine d'années chez les femmes, et c'est vrai que ça a mis beaucoup plus de temps à être développé chez les hommes.
Thomas, vous vous êtes rendu compte assez tardivement hein, finalement que cette pilule féminine était une vraie charge mentale pour votre ex-compagne. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille dans votre histoire perso ?
C'est le ras-le-bol de ma copine qui m'a mis la puce à l'oreille. Il a fallu me rendre compte après plus d'une dizaine d'années de couple, enfin une quinzaine d'années moi, étant adulte et en couple, il m'a fallu 15 ans pour me rendre compte que c'était une charge que je pouvais partager aussi.
Pourtant, professeur Huyghe, historiquement, qu'est-ce qui existait en termes de contraception, je ne sais pas, chez les hommes, on retrouve ça dans le passé, dans l'histoire ?
Alors, tout à fait. Les préservatifs, les capotes, existent depuis la Haute Antiquité.
Ah oui ?
On en retrouve la trace dès 6000 ans avant Jésus-Christ, mais jusqu'au 19e siècle, ils étaient faits en intestin de mouton, de porc, ou avec des vessies d'animaux. Oui, c'est pas très poétique. Avant que les découvertes du caoutchouc par Goodyear ne permettent la production dans les années 1870 des premiers préservatifs en latex.
Et qu'est-ce qui existe en termes de contraception masculine, professeur, aujourd'hui sur le marché ? Juste un petit listing hein, pour le moment.
Oui, bien sûr. Ben, pour contracepter un homme, on a soit la possibilité de suspendre la production des spermatozoïdes dans le testicule, qui est l'organe qui les produit. C'est ce qu'on fait en cas de contraception hormonale, on va en parler, ou thermique. Je veux dire par là les sous-vêtements. On peut empêcher que les spermatozoïdes ne deviennent fécondants. Alors ça, c'est une voie vraiment prometteuse. Pour l'instant, ça n'est que des pistes, principalement centrées autour d'un petit organe qui est situé au-dessus du testicule, que personne ne connaît et qui est pourtant très important pour la fertilité masculine, qui s'appelle l'épididyme. Et puis, on peut empêcher que les spermatozoïdes ne se mélangent avec le sperme. C'est ce qu'on va faire lorsqu'on réalise une vasectomie. Et puis, bien sûr, on peut empêcher que les spermatozoïdes éjaculés ne rentrent en contact avec le corps de la femme en utilisant un préservatif.
Bon, c'est très clair. Thomas, les Français, les hommes en tout cas, ils seraient prêts, selon vous, à prendre une pilule, on va dire l'équivalent hein, de la pilule féminine avec bon, les effets secondaires qu'on connaît parfois. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai que sortent régulièrement des articles où on voit où on nous annonce la venue d'une pilule miracle et toujours accompagnée de sondages qui disent que les hommes seraient prêts effectivement à prendre une pilule quand bien même il y aurait des effets secondaires sensiblement pareils à ceux de la pilule pour femmes. Je trouve que ces articles vont un peu à contre-courant de ce qu'il faudrait faire, à savoir il existe d'ores et déjà des méthodes de contraception masculine sur lesquelles il faudrait peut-être se pencher un peu plus et dont il faudrait parler.
Justement, c'est ce qu'on va faire ce matin. Vous ne bougez pas. On revient très vite. On va poursuivre cet éclairage sur la contraception au masculin. Serait-elle donc sur le point de devenir une affaire d'hommes aussi ? On va voir déjà ce qu'en dit la science et ce qui se fait déjà. Certains hommes se sont emparés de cette préoccupation. L'un d'entre eux est sur ce plateau. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc super doux, nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes du latex.
Et oui, Elmer Footbeat, adepte du latex. Mais nous, on a plein d'autres solutions à vous proposer ce matin en termes de contraception masculine. Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. C'est tous les matins sur Europe 1 de 11h à midi. Et aujourd'hui, on met donc un coup de projecteur avec nos invités sur la contraception au masculin. On fait le point avec Thomas Rixens, alias Bobica, auteur du livre Le cœur des obes, que je montre actuellement à la caméra aux éditions Matin, ainsi que le professeur Eric Huyghe, chirurgien urologue, andrologue au CHU de Toulouse et toujours en ligne avec nous. Alors Thomas, quand votre ex-compagne vous a annoncé qu'elle allait arrêter la pilule, est-ce que vous vous êtes dit « bon, bah, c'est mon tour » ou est-ce que vous espériez qu'elle trouve une autre solution ?
J'espérais qu'elle trouve une autre solution. Pour moi, il était inenvisageable que je m'intéresse à la contraception. Ça roulait très bien comme ça depuis 15 ans, donc je voyais pas pourquoi ce serait à moi de... Ça m'est même pas venu en tête, en fait, de prendre en charge la contraception.
Ouais. Enfin, ça roulait bien pour elle. Enfin, pour vous, parce que pour elle, c'était pas facile.
C'était galère, mais il a fallu s'en rendre compte. Ouais.
Mais vous en étiez pas rendu compte en 15 ans?
Non, en fait, c'est ça qui est assez terrible. Et je pense que la plupart des hommes aujourd'hui ne se rendent pas compte de la galère que ça peut être de se contracepter. Moi, j'en entends parler parce que ça fait maintenant plus de 6 ans que je m'intéresse au sujet. C'est méconnu de tous les hommes, en fait.
Il faut pas l'oublier, il y a des effets secondaires, enfin tout ça, effectivement, on vous en parle pas forcément et vous y intéressez pas toujours, effectivement. Professeur Huyghe, on va passer en revue les différents contraceptifs masculins ce matin, à commencer, évidemment, on en a parlé déjà un petit peu, du préservatif qui existe depuis la nuit des temps, on l'a découvert avec vous. Ça reste quand même, on peut le dire, l'un des moyens les plus sûrs et qui protège aussi, en plus, des maladies sexuellement transmissibles, on est d'accord?
Oui, tout à fait. D'abord, il faut rappeler quelques chiffres. En France, quand même, 2 millions d'hommes utilisent le préservatif masculin, toutes orientations confondues. et 70% d'entre eux dans la classe d'âge 15-25 ans. Hein ? Alors, l'efficacité du préservatif en tant que contraceptif, elle est bien connue. Son indice de Pearls, je rappelle, hein, c'est celui qui donne le nombre de grossesses parmi 100 couples utilisant régulièrement une méthode de contraception durant une année. Ça va de 2 en cas d'utilisation correcte, malheureusement à 15 dans la vraie vie. Donc, il faut bien le mettre dès le début du rapport, ce qui n'est pas toujours fait.
Et vous ?
Alors, ça n'est peut-être pas le mode de contraception le plus sûr, mais par contre, il est parfaitement adapté à la contraception à court terme, hein, à celle d'une relation naissante, quel que soit l'âge. Hein. Et il ne faut pas oublier aussi, et vous l'avez dit, c'est important, qu'il est le seul moyen contraceptif qui préserve des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH et l'hépatite B. Alors, dans un pays où il y a une contamination par IST chaque minute, et aussi où le nombre d'IVG est toujours aussi important, au-dessus de 200 000, notamment chez les femmes jeunes, eh bien, c'est important de parler du préservatif et aussi de rappeler qu'en France, depuis 2018, eh bien, des préservatifs sont remboursés sur prescription médicale. D'abord Eden, puis Sortez Couvert. Et donc ça, c'est encore méconnu.
Dites-moi Thomas, les préservatifs, c'était pas une solution pour vous à long terme ? On entend le professeur dire que c'est généralement du court terme. C'était le cas pour vous ?
C'était le cas pour moi.
Pourquoi ?
On est pour une question de confort et je pense que ça, j'imagine qu'il y a certains couples, il y a certains couples autour de moi qui utilisent le préservatif comme comme contraception principale. Ça peut l'être pour moi. En tout cas, personnellement, c'était pas quelque chose que je trouvais très confortable, même s'il a fallu y repasser avant de trouver une solution. Avec ma copine d'alors.
Une solution autre et pérenne. Professeur Huyghe, parmi les autres solutions contraceptives que vous proposez d'ailleurs parfois à vos patients, hein, je crois qu'il y a une espèce de contraception hormonale. Ça consiste à injecter de la testostérone aux hommes. Pourtant, ça a l'air contre-intuitif, comme ça on a l'impression que si on donne encore plus de testostérone, puisque c'est l'hormone mâle, l'hormone qui rend viril, ben voilà, je vois pas trop comment ça fonctionne en fait. Comment ça couperait l'effet fertile, on va dire.
Bon, je suis d'accord avec vous, le fait de prendre des doses élevées de testostérone, ça augmente la masse musculaire et la pilosité. Et donc, ça peut donner l'air assez viril. Par contre, concernant la fertilité, c'est pas pareil. Et je suis content d'ailleurs que vous abordiez cette question, parce que ça va me donner l'occasion de faire tomber une fausse croyance. Quand on prend de la testostérone à des doses élevées, on ne devient pas plus fertile. C'est complètement l'inverse, on bloque la production des spermatozoïdes. Il faut bien en informer le grand public, car on voit régulièrement des hommes, dans des consultations d'infertilité, qui ont pris des androgènes, parfois sans le savoir même, dans le cadre de bodybuilding, et qui ont des difficultés pour avoir un enfant. Pire, parfois, c'est des hommes qui sont déjà infertiles, qui pensent bien faire en la prenant. Donc, sans le savoir, ils aggravent les choses.
Bon, après oui, c'est pas non plus. Il y a des effets secondaires quand même à faire ça. Hein. C'est pas la technique que vous conseillez, je pense. Hein. À tous.
Oui, alors, c'est sûr que prendre des doses de testostérone importantes, eh bien, ça va avoir des conséquences. Une des conséquences, c'est d'augmenter le nombre de globules rouges, ce qui pourra rendre le sang plus épais et augmenter le risque de phlébite.
Ah oui.
Alors, l'autre crainte, c'est plus une crainte hein, qu'autre chose, c'est le risque de cancer de la prostate. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas donner de la testostérone à un homme qui a un cancer de la prostate non encore traité. Mais le risque de cancer de la prostate, ça concerne des hommes au-delà de 50 ans. 45 ans, quatre facteurs de risque, par exemple, être afro-antillais. Ouais. En fait, on ne sait pas si on augmente le risque de cancer de la prostate si on administre des doses élevées et prolongées de testostérone à un homme jeune. C'est pourquoi jusqu'à présent, on recommande de ne pas utiliser une contraception hormonale par testostérone à dose élevée, plus de 2 à 4 ans.
Ok. Vous, Thomas, vous avez opté pour le slip chauffant. Alors, je voyais tout à l'heure Thomas Hill ricaner un peu. C'est vrai qu'on a envie de rire, slip chauffant, mais et c'est quelque chose de très sérieux. Vous nous en avez emmené
Celui-là n'est pas chauffant, c'est autre chose.
Ah, ouais. C'est encore autre chose. Mais c'est quoi le principe du slip chauffe ?
Un slip chauffant, c'est ça ?
Oui.
Sur Europe1.fr pour ceux qui veulent le voir. J'ai un exemplaire entre les mains.
En fait, ça agit en maintenant les testicules près du corps, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc ça réchauffe, d'où l'abus de langage qui nous fait dire slip chauffant.
Ouais, on a l'impression que c'est un truc qui chauffe, mais pas réellement.
Bah, oui, parce qu'il n'y a pas de chaufferette à l'intérieur.
Non, mais il a existé des slips avec des chaufferettes à l'intérieur.
Ah, oui. Carrément.
Les prémices du ce qu'on appelle le roman de couilles toulousain, hein, c'est le nom originel du slip que vous avez entre les mains.
Et comment ça fonctionne un slip comme ça, qu'on comprenne bien ?
Et alors ça permet de remonter et maintenir les testicules près du corps, et donc de les réchauffer.
Mais c'est pas douloureux ?
C'est gênant en début, on va dire la première semaine, mais c'est comme porter des lunettes, on s'habitue très vite. C'est même mieux, quelques mois après avoir commencé le protocole, on se demande toujours si on a bien enfilé son slip remonte-couille. Il faut vérifier manuellement pour savoir si on le porte bien.
Et ça fonctionne comment alors, professeur Huyghe, ce slip chauffant qui n'a pas de chaufferette, hein, mais il bloque vraiment la production de spermatozoïdes. Par quel mécanisme en tout cas ça annule la fertilité?
En fait, le testicule, pour produire des spermatozoïdes, il a besoin de fonctionner à peu près 34 degrés. Donc c'est pour ça que les testicules, chez tous les mammifères, sont dans les bourses. Donc en fait, quand on va augmenter la température au niveau des testicules, on va diminuer la spermatogénèse. Alors c'est vrai qu'actuellement, là, on va parler beaucoup du slip chauffant ou équivalent. C'est des méthodes qui augmentent de 2 degrés. La température au niveau du testicule, et il faut le porter pendant 15 à 18 heures par jour, hein, on va y revenir, c'est quand même important de le préciser. Et il faut savoir qu'on pourrait aussi augmenter la température scrotale beaucoup, hein, c'est-à-dire au-delà de 40 degrés, pendant environ une heure, ça marche également. Mais effectivement, ça a été utilisé au Japon dans les années d'après-guerre, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès après. Alors, est-ce que ça marche? Ben oui, si en fait on se réfère à la littérature médicale publiée, il y a aucune grossesse qui n'a été constatée chez 51 couples étudiés qui avaient utilisé un dispositif thermique sur une durée totale d'exposition de 536 mois. Donc, c'est vrai que ça marche bien, mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agissait d'hommes très motivés, observants et bien informés.
Mais je crois que c'est le cas de notre invité Thomas. 15-18 heures, porter un slip, effectivement, c'est votre cas, j'imagine, pour que ça marche. Et puis, c'est pas tout. Je crois qu'il faut que vous alliez faire des spermogrammes régulièrement. Pour quelle raison?
Tous les 3 mois, mais pour s'assurer de notre infertilité. Donc ouais, c'est 15 heures de port par jour. C'est contraignant, c'est vrai, mais c'est grosso modo du lever au coucher. Et le spermogramme nous permet de nous assurer qu'on est infertile.
Il faut quand même avoir confiance dans son partenaire. Hein. Il faut être sûr, nous, en tant que femmes, qu'effectivement, il porte bien le slip au moins 15 heures.
Dans une relation de couple où la confiance est partagée, effectivement, il faut que ce soit porté. Mais après, c'est aussi un... Alors moi, j'ai appris à être contracepté et c'est quand même une position de confort de savoir qu'on n'est pas fertile. Et que je sois un couple, que je ne le sois pas, je reste contracepté. Parce que voilà, je m'assure en tout cas de pas provoquer de grossesse non désirée et c'est assez confortable.
Vous avez la sensation de maîtriser en plus, non?
Oui.
C'est intéressant d'entendre un homme qui parle de ça, parce que nous, gérer notre contraception, on a l'habitude, Julien, on fait ça depuis toujours. Et ça procure quelle sensation à un homme justement de gérer ça correctement?
Mais étonnamment, c'est hyper libérateur. Moi, je comprends pas comment des hommes qui ont pu provoquer par le passé des grossesses non désirées et qui ont sans doute conduit à des IVG continuent à être autant irresponsables vis-à-vis de la reproduction et de voilà. Moi, c'est vraiment une position de confort et je tiens à maîtriser ma fertilité.
Merci beaucoup. On va rester ensemble. On explore ce matin ce qui existe déjà sur le marché pour aider les hommes, les couples, à faire en sorte que ce soit les messieurs qui gèrent la contraception au quotidien. Ça a quand même l'air assez artisanal parfois. Alors que, en fait, on va s'intéresser maintenant à savoir si la recherche aussi avance dans ce domaine. On nous avait promis une pilule masculine. Alors, est-ce qu'elle va un jour voir le jour, Mélanie? Pour en savoir plus, eh bien, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali. Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 11h30 et on s'intéresse ce matin à la contraception au masculin. Si c'était donc au tour des hommes en 2022 de gérer tout ça, on en parle avec Thomas Rixin, alias Bobica, auteur du livre Le cœur des hommes aux éditions Matin, ainsi que le professeur Éric Huyghe, chirurgien urologue andrologue au CHU de Toulouse. Thomas, tout à l'heure on a parlé des slips chauffants qui donc portent un nom qui ne leur vont pas si bien que ça, parce qu'il n'y a pas de chaufferette à l'intérieur, c'est un système mécanique plutôt pour chauffer le testicule. Justement, on les trouve où? Parce qu'on a plein de questions sur Europe1.fr justement. Où est-ce qu'on peut acheter un slip chauffant? Je crois qu'on peut même les fabriquer soi-même. Il y a des ateliers de mecs qui font ça.
Le slip chauffant ne s'achète pas. Il se faisait prescrire. Il était prescrit par le docteur Mieusset, qui était un exercice au CHU de Toulouse, qu'il n'est plus. La solution aujourd'hui, alors, c'est de se procurer un anneau Andro Switch. Alors, c'est dommage parce qu'il vient d'être retiré de la vente parce qu'il n'a pas le marquage CE. Il y a toute une coopérative qui s'est...
Je vous le décris, hein, c'est un anneau en silicone, hein,
qui
fait la même chose que le slip, hein, qui remonte.
Qui sert à remonter les testicules.
Voilà. Okay.
Donc voilà, il vise une remise sur le marché à horizon 2026 après avoir mené tous les essais cliniques nécessaires. Et autrement, on peut se fabriquer aussi des remonte-couilles, donc des slips contraceptifs auprès d'associations qui sont à peu près dans toutes les villes de France, où on se fabrique nous-mêmes...
Des associations d'hommes, hein, a priori.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, des associations qui fabriquent des slips et qui aussi permettent des espaces de parole entre hommes.
Professeur, pourquoi la recherche sur les contraceptifs masculins est si longue, si lente? On a l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup l'industrie pharmaceutique. La fameuse pilule, là, ça fait des années qu'on entend parler de la pilule masculine. On en est où?
En fait, je pense qu'il y a quand même une mobilisation des groupes pharmaceutiques autour de la question. Mmh. Il ne faut pas imaginer que les groupes pharmaceutiques sont dirigés par de méchants machos. Mmh. Mais il faut être conscient que le développement d'une nouvelle contraception, ça coûte plusieurs millions d'euros. Et jusqu'à présent, ils sont arrivés à la conclusion que le retour sur investissement n'était pas du tout assuré.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire
Et d'ailleurs, je me pose la question parce que je ne vois pas beaucoup d'hommes venir me demander une contraception hormonale.
Oui, ben c'est ça.
Alors, donc... soyons clairs, depuis 10 ans, on vit quand même dans un monde assez hormonosceptique où on cherche des moyens naturels et aussi de plus en plus une contraception permanente, ça je le constate, mais je crois que nous allons bientôt en parler.
Thomas, est-ce que vous croyez aussi, le professeur disait que les hommes n'étaient pas très demandeurs forcément de contraception masculine, que ce qui peut freiner les hommes, c'est que pour beaucoup d'entre eux, la fertilité, c'est un peu aussi l'image de la virilité.
Alors c'est marrant que vous parliez de ça parce que c'est ce qui est à l'origine de toutes les recherches sur la contraception thermique et hormonale qu'ont commencé les recherches modernes à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est des hommes qui questionnaient leur masculinité, qui questionnaient le rôle d'homme que leur imposait la société. Et dans ce rôle d'homme, il y avait ce fait d'être toujours fertile, toujours prêt à féconder. Et ils ont entamé comme ça... Pour être plus en accord avec leurs émotions, leur manière d'être, une grève, ils ont voulu démarrer une grève de la fertilité. C'est comme ça qu'ils ont commencé leur recherche sur la contraception.
Donc il y a un vrai lien, a priori. Hein.
Oui, c'est quelque chose qu'à déconstruire, je pense que...
Mais vous vous sentez moins homme quand vous êtes sous contraception?
Alors absolument pas, mais... Alors, bon après, c'est une question qui se pose. Moi, ça m'a évoqué toutes ces... On touche aux questions de la masculinité quand on cherche à se contracepter. Ça ouvre des portes que je pensais fermer à double tour. Et c'est assez libérateur finalement.
Donc c'est bien de se questionner, hein, de se poser les bonnes questions.
Professeur Huyghe, quand on est sûr pour le coup de ne plus vouloir d'enfant, il y a évidemment la contraception définitive, Clément Lanoux en parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle la vasectomie. Expliquez-nous rapidement en quoi ça consiste, et je crois qu'en France, il n'y a pas encore beaucoup d'hommes qui sont demandeurs. Hein.
Alors, détrompez-vous. Hein. En 10 ans, eh bien, on a multiplié par 10 le nombre de vasectomies en France.
C'est bien, ça évolue.
Donc je crois que pour le coup, et je reviens sur ce que disait Thomas, prendre la contraception, eh bien, c'est quelque part être considéré enfin comme un adulte fiable et capable de prendre ses décisions. Il y a de plus en plus d'hommes qui décident, pas pour eux-mêmes, et puis également pour leur couple, parce que c'est également un message d'amour, de réaliser la vasectomie. Alors la vasectomie, c'est vrai, encore peut-être méconnue à tort en France, elle présente beaucoup d'avantages. D'abord, elle est beaucoup plus simple à réaliser que la ligature des trompes. C'est la plus sûre de toutes les contraceptions, avec moins de 0,5% d'échecs. Elle est réalisée en ambulatoire et elle peut être faite sous anesthésie locale avec une technique sans scalpel. Hein, donc, en quoi ça consiste? Très simple, hein. On commence à faire la même anesthésie locale que chez le dentiste. On attrape à l'aide d'un petit instrument spécialement prévu à cet effet le déférent. On l'extériorise par une petite incision de 5 mm, hein, donc c'est très petit, on met même pas de point, au niveau des bourses. Et ensuite, on va le sectionner et boucher l'extrémité pour empêcher que les spermatozoïdes ne retrouvent leur chemin. Et c'est tout.
C'est pas grand-chose.
Mais ça fait pas trop mal, ça, professeur?
Non, c'est pas grand-chose.
D'accord. Et on peut revenir en arrière ou pas avec la vasectomie?
Alors, effectivement, hein, il faut quand même imaginer, on n'est pas tout à fait dans le même cas, je trouve, que pour la femme qui a fait une ligature des trompes. D'abord, il y a une chirurgie qui permet de faire un pontage, donc de rétablir la continuité. Donc c'est ce qui s'appelle la vasovasostomie, ça marche quand même dans à peu près 50% des cas. Donc c'est vrai que souvent on dit aux patients qu'il faut être sûr d'eux, c'est vrai, on les informe bien. Vous savez que la loi française, elle impose un délai de réflexion de 4 mois, donc je pense que les gens, ils ont le temps quand même de bien réfléchir. Voilà, mais elle existe cette chirurgie. Deuxième chose, en fait, il faut quand même garder à l'esprit que pendant toutes ces années où ils ont fait après la vasectomie, eh bien leurs testicules continuent à marcher. Donc dans le pire des cas, on pourra aller chercher des spermatozoïdes dans les testicules.
Ah, hein. Oui. Et puis, il y a encore une chose qui est quand même différente entre l'homme et la femme, hein, c'est la facilité pour l'homme de congeler des spermatozoïdes. En France, il y a des sécoces, dans toutes les régions, c'est facile à trouver. Et c'est à la charge des patients, mais c'est 120 euros environ la première année, et c'est 60 euros par année. Donc, par exemple, un homme prévoit un budget de 600 euros et il a des spermatozoïdes congelés qui seront utilisables quand il le souhaitera pendant 10 ans.
Dites-moi, Thomas, la vasectomie. Oui, et je voulais simplement savoir, Thomas, la vasectomie, c'est quelque chose que vous pourriez envisager?
Ah oui, quand je serai sûr de ne plus vouloir d'enfants, c'est sûr que j'envisagerai la vasectomie. Oui.
Ah oui, vraiment, sans aucun problème. Non, ça ne vous fait pas peur.
Mais comme disait le professeur, c'est une opération extrêmement bénigne qui dure 10 minutes, un quart d'heure sous anesthésie locale.
Je suis sûr que vous avez des copains qui l'ont déjà fait et qui ont témoigné que c'était pas si terrible que ça. Hein.
Ça n'a rien de terrible. Et puis ça n'a aucun impact ni sur l'éjaculation, ni sur le bain hormonal dans lequel on baigne.
Je crois qu'il y a d'autres choses qui sont testées sur des animaux, notamment, je vois dans votre livre, une petite baignoire à testicules. C'est quoi ça?
Alors, ça pour le coup, ça n'a pas été testé sur des animaux. C'est quelque chose qui est sorti l'année dernière d'une designeuse qui a gagné le concours Dyson. Voilà. Très régulièrement dans les médias, on a la contraception masculine du futur qui devrait arriver dans les prochains mois. Comme je vous disais en début d'émission, c'est à mon sens un peu contre-productif parce que c'est pas si vrai. Il faut des essais cliniques qui durent des années et des années avant de voir arriver une contraception. Et cette baignoire à testicules ne verra sans doute jamais le jour, alors dans une vingtaine d'années.
Professeur Huyghe, en 10 secondes, parce qu'il nous reste très peu de temps, je crois quand même que dans un avenir proche, il pourrait y avoir encore de nouveaux contraceptifs. Il y a notamment une étude en Inde avec des injections testées sur des hommes et ça semble assez efficace. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça rapidement?
Oui, très rapidement. Bah, c'est effectivement uniquement en Inde, dans deux centres qui le pratiquent depuis 1992, qui ont déjà traité 200 hommes. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la technique est facile à apprendre. Par contre, on sait que ça marche, ça s'appelle le Rizug, mais ça n'est pas disponible dans l'ensemble de l'Europe, hein, c'est toujours dans l'Inde, et ça consiste à finalement, on va faire comme une vasectomie, mais peut-être plus facilement réversible.
Très bien, bon, encore beaucoup de choses et d'évolutions et de progrès à venir. Merci à tous les deux. Je pense qu'on a bien défriché ce matin ce thème de la contraception masculine, les regards et les mentalités, elles aussi évoluent et la recherche avance. On vous en a parlé et on en parle aussi dans votre livre, Thomas, je le recite, alias Bobica. Le titre, c'est Le cœur des obes aux éditions Matin. Merci.
Oui, merci d'avoir été avec nous. Mélanie, maintenant, on va passer à notre séquence dans laquelle on va accueillir nos bienfaitrices du jour. La première, ce sera Cécile Coumeau. Elle a testé pour nous un café philo. Vous savez, ce sont ces lieux dans lesquels on peut tous s'essayer au débat façon Platon ou Kant. Une activité qui se développe et qui fait du bien. Et puis avec Philippine Darblay, on va s'essayer à toute autre chose. Elle va nous parler d'une tendance beauté, la beauté à la brésilienne. Beaucoup de bienfaits en perspective et c'est normal, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous jusqu'à midi. Nous sommes en direct et à présent, donc, on va passer à notre petit duo de bienfaitrices du jour. Ce jeudi, je me tourne d'abord vers Philippine Darblay. Bonjour Philippine.
Bonjour à toutes les trois.
Je crois qu'on va se faire beau et belle sur un air de samba aujourd'hui, c'est ça?
Oh oui, bah, s'il y a bien un pays dont on a envie de s'inspirer pour la beauté, c'est le Brésil. Et il y a des tonnes de nouveautés, des nouvelles marques, des nouveaux produits, plein d'inspiration à prendre aujourd'hui.
Bah, moi, j'ai hâte de connaître les astuces des brésiliennes. Mais avant ça, c'est Cécile Coumeau qui n'est pas brésilienne, mais qui est fort jolie, qu'on va écouter aujourd'hui. Alors, je rappelle, Cécile, que vous testez régulièrement pour nous toutes sortes d'activités pour se faire du bien. Et d'habitude, vous nous proposez des expériences plutôt physiques. Mais aujourd'hui, c'est notre cerveau que vous allez faire travailler puisque vous avez participé à un café philo.
Exactement. Et parce qu'en fait, la santé, le bien-être, ça repose sur un équilibre physique et mental. Il faut bien entraîner la tête et les jambes. Donc j'ai effectivement tenté une expérience inédite pour moi, le café philo. Alors concrètement, c'est quoi un café philo? C'est une discussion finalement organisée le plus souvent dans un café, comme son nom l'indique. C'est-à-dire un lieu public ouvert à tous, c'est ça l'idée, mais avec des règles bien précises. Un animateur qui est formé à ça mène le débat. Une question philosophique est à l'ordre du jour. Alors ça peut être, la morale peut-elle empêcher la barbarie? Ou encore, qu'est-ce qui nous rend humains? Voilà, c'est ce type de questions qu'on va traiter.
Ouais, on est quand même loin de la discussion du café du commerce. Alors, est-ce que c'est pas du coup quand même réservé à une sorte d'élite, des intellos, quoi, disons?
Alors bien sûr, il faut aimer les idées, je dirais, débattre. Mais c'est inutile de vous remémorer vos cours de terminale, de philo.
Moi, j'étais déjà en train de me dire, si j'y vais, il va falloir que je révise un peu.
Mais non, pas la peine. Vous ne devez plus les avoir, de toute façon. Non. Donc, on vous demande absolument pas de potasser les textes d'Hegel ou de Kant, de se référer même à des philosophes. Je peux en attester puisque j'ai participé à un café philo, je ne me rappelle pas de mes cours de terminale.
Mais vous avez une fille en terminale, alors ça peut aider. Hein.
Alors celui auquel j'ai assisté, il est organisé à Paris par l'espace Le Moulin dans le 14e arrondissement. Et comme me l'a expliqué Catherine Pétieux, la directrice de cet espace, en fait, il faut surtout faire preuve de curiosité.
La première démarche, c'est apprendre à penser par soi-même. Pour ça, chercher des argumentaires et, à la manière socratique, questionner la question. Toujours, il y a le pourquoi des enfants. Je crois que les premiers philosophes sont les enfants. Ils diront toujours « et pourquoi ?»« et pourquoi ?»« et pourquoi ?» Ben, ça, c'est le dialogue socratique.
Alors, j'imagine que ce n'est pas que ça, le dialogue socratique. Ça ne consiste pas seulement à dire « et pourquoi ?»« pourquoi ?»« pourquoi ?»
Effectivement, Julia, vous avez raison. En fait, le but, c'est d'amener chacun à s'interroger sur ses propres croyances, à penser réellement, en fait, pas à répéter ce qu'on a déjà entendu, en questionnant la question, comme ils disent, en la triturant un peu dans tous les sens. Alors, ça veut dire que vous devez argumenter plutôt que de vous précipiter à donner votre opinion, qu'on peut le faire d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous devez écouter les autres et réfléchir à la définition des mots. Ça, c'est ce qu'on faisait aussi en terminale, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et c'est vraiment un exercice. Hein. Vraiment, j'ai testé. Et voilà, ça demande un effort. Alors, je vous propose un petit aperçu de nos échanges, évidemment, en résumé, sur la question philosophique du jour que nous expose Oriane, qui menait les débats.
Avoir le choix, est-ce être libre? Vous allez devoir répondre par oui ou par non. Les adeptes du « les deux », oui, mais ça dépend. Ça marche pas. On a besoin de penser par opposition. Donc le relativisme a son intérêt, mais pas pour apprendre à penser. Bien. Involontaire pour donner son argument.
Je disais non, parce que il faut déjà avoir une prise de conscience de cette liberté pour avoir le choix. Sans cela, on reste dans une illusion. Voilà.
Qui peut proposer une reformulation de l'argument de Manuel?
Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on est libre, et donc de faire un choix éclairé, et que si on n'est pas réellement libre, mais on n'a pas conscience, on fera un choix qui n'est pas éclairé, et donc on ne sera pas libre.
Donc maintenant, je vous propose de changer d'argument, parce que peut-être ça va nous éclairer. Et des candidats du oui voudraient-ils lever la main? Alors,
Gabriel. Oui, parce que je suis la seule responsable de mes décisions et de mes actions.
Et si tu enlèves le jeu, comment tu reformulerais les choses? On va essayer d'aller à un principe universel.
Avoir le choix, c'est être responsable de ses décisions et ses actions, donc être libre.
L'objectif de ce jeu, en fait, c'est d'être capable de reformuler des choses avec lesquelles parfois on est en profondément désaccord. Parce que c'est se départir des émotions qui chauffent et qui nous court-circuitent notre capacité à réfléchir.
Bah oui, alors c'est pas du tout la foire d'empoigne, hein. On sent que les règles sont strictes, en même temps j'aime bien, il y a un cadre en fait, on est guidé. Hein.
Exactement, et c'est justement ce cadre qui fait que l'on écoute vraiment l'autre, qu'on reste pas campé sur ses positions, et surtout que la philosophie devient un outil pour mieux vivre au quotidien en fait. On s'est tous rendu compte lors de cet exercice qu'en reformulant, comme ça on a passé vraiment une heure à reformuler les arguments des uns et des autres, et bien que nos désaccords, voire nos engueulades, hein, parfois elles venaient du fait qu'on n'avait pas pris le temps de comprendre l'autre, ou que parfois on n'avait pas la même définition du choix ou de la liberté. Donc voilà.
Moi, Cécile, super, mais finalement avoir le choix, est-ce que c'est être libre?
Alors autant dire qu'en une heure et quelques débats, on n'a pas pu trancher la question, il en faudrait beaucoup plus, et c'est tant mieux, comme nous l'explique Catherine Pétieux.
On voudrait tous repartir avec des recettes. Je crois qu'au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui suivent les cafés philo, au fur et à mesure, on comprend que quelque part, la réponse nous enferme aussi. Peut devenir dogmatique, peut devenir une croyance. Donc, moins il y a de réponses à porter, plus ça laisse de liberté à penser.
Voilà, donc je vous laisse réfléchir à la question. Il y a d'autres cafés philo partout en France, à
merci
vous de jouer.
Merci beaucoup Cécile, on va tester ça parce que ça change un peu d'activité, puis ça nous tente bien avec Julia,
ah
on
oui,
va aller faire café philo.
Ça nous ferait du bien de
allez,
réfléchir.
Toujours pour prolonger l'été, tout du moins dans sa salle de bain, on va parler de beauté brésilienne maintenant avec Philippine, avec de nouveaux produits et de nouvelles marques qui débarquent en France.
Alors effectivement, le Brésil est ultra tendance dans tout ce qui touche à la mode, à la beauté. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette marque qui s'appelle Farm Rio. C'est une marque de vêtements éco-responsables, hyper joviale, qui fait fureur. Je pense qu'on a aussi aussi toutes essayé ou presque la méthode de drainage lymphatique Renata Franca.
Oui. Moi non, mais Julia, non. Moi non plus. Je suis très adepte.
C'est très, en fait, on devient assez vite accro. Oui. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, une crème qui s'appelle la Bum Bum Cream.
C'est pour les fesses.
Exactement.
Elle est super, celle-là.
De Sol de Janeiro. Exactement.
Elle connaît tout déjà, Julia, hein, j'ai l'impression. Oui, j'aime bien la beauté à la brésilienne.
Bah, franchement, on a tous envie d'un fessier comme les Brésiliens. On peut le dire. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une marque de beauté brésilienne historique qui a plutôt des airs d'apothicaire. Vous allez voir, c'est ravissant, ça s'appelle Granado.
Pourquoi cette marque, elle est incontournable au Brésil?
En fait, tout simplement parce qu'elle est pionnière dans l'utilisation d'extraits végétaux en cosmétique, donc quelque chose qui se fait évidemment énormément aujourd'hui. Mais pour vous donner un exemple, en fait, leurs pharmaciens sont à l'origine des premières pharmacopées locales. Les pharmacopées, en fait, ce sont des répertoires plutôt technique de sur la flore, les compositions, les effets, etc. Et c'est un savoir qu'on retrouve évidemment dans tous leurs produits, mais notamment dans un des derniers lancements qui s'appelle Bossa, que j'ai là, que je vais vous montrer. Alors Bossa, c'est une eau de toilette, un hommage à une ville qui nous fait rêver, c'est Rio. Et c'est une fragrance dans laquelle Marina Cruz, qui est directrice du développement de la marque en France, retrouve plein de souvenirs.
Personnellement, en tant que brésilienne, que carioca, je suis née à Rio. Quand j'ai senti Bossa pour la première fois, ça m'a vraiment évoqué quelque chose de très particulier, de très pointu, qui s'appelle ma king, qui est ce pareo que toutes les cariocas utilisent pour s'habiller, pour aller à la plage, parce que c'est vraiment un élément qui fait partie de notre routine quand on va passer 15 minutes, 20 minutes au bord de mer. Et qui est imprégné justement de ces embruns marins qu'on appelle la marésille, mais aussi ce côté un peu résidu de crème solaire, donc avec les notes de coco qui sont très subtiles, qui sont pas lourdes ni trop gourmandes, c'est vraiment assez subtil.
Est-ce que vous avez testé autour de la table? Vous en pensez quoi de cette...
Oui, ça donne, moi, ça me fait penser à l'été, quoi. Ah,
voilà. L'été, mais c'est léger, c'est subtil. On n'est pas dans un truc trop sucré, trop imposant. C'est franchement, moi, je trouve ça très frais, très agréable.
Je suis à Ipanema, là.
Ah, oh, j'adore. Super. Alors, apparemment, c'est une marque qui serait très appréciée de notre créateur Christian Louboutin, mais aussi du modèle Inès de la Fressange ou encore de notre plus grande ambassadrice brésilienne en France, Cristina Cordula.
Mais il paraît qu'elle a lancé une ligne de maquillage.
Et oui, tout à fait. Alors, c'est une ligne d'ailleurs qui est bien à son image. Je vous laisse deviner le nom de la marque.
Magnifique.
Oh, j'adore. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que même les produits ont des noms fun. Par exemple, l'anti-cerne s'appelle Au Taquet. L'embellisseur de teint, c'est la base. On l'entend parler, on l'entend dire ça. Bon, au-delà de l'humour, hein, c'est des produits qui intègrent tous du soin, parce qu'ils contiennent des ingrédients brésiliens, type açaï, acérola, etc., pour des bienfaits différents. Et surtout, on va à l'essentiel. Ce ne sont que des basiques.
En fait, ce que je voulais faire, c'est une routine make-up. Vous voyez, des essentiels. Comme il y a les basiques de la garde-robe, que moi je dis tout le temps dans la mode, et ben moi je voulais faire les basiques de la trousse. Donc je donne des conseils aux femmes, avec le but qu'elle apprenne son corps, qu'elle apprenne comment lui mettre en valeur. Et ben pareil avec les maquillages. On lui donne plein de conseils, avec plein de tutos, plein d'explications, comment utiliser les maquillages pour une soirée, comment on fait un maquillage pour un mariage, comment on fait un maquillage pour le week-end, pour travailler. Il y a plusieurs thèmes de maquillage différents et qu'on n'explique pas à pas comment l'utiliser.
Alors évidemment,
rien que de l'entendre, on a la pêche. Je sais pas pourquoi.
Je jure, c'était génial de pouvoir lui parler. J'étais là, oh là là, j'adore. En tout cas, elle donne des conseils aux femmes, mais aux hommes aussi ici, puisque cette ligne s'adresse à tous, tout âge, toute peau, notamment via ses tutos qui, je dois dire, sont top.
Et parfait, donc hein. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que les Français et les Brésiliens appréhendent la beauté différemment ou pas?
Pour Marina Cruz, la réponse est oui. Pour les Brésiliens, la sensorialité des produits, le fait de sentir bon aussi pour soi et pour les autres, prime avant tout. Alors pour vous donner un exemple, et je pense qu'on en est parfois un peu loin en France, ils prennent 2 à 3 douches par jour avec des soins, des gommages, de l'eau de Cologne. C'est un rituel beauté dans son ensemble.
Eh ben génial! Vive le Brésil! En fait, ils sont hyper propres par rapport à nous.
Non, mais
vous prenez pas 3 douches par jour?
Vous prenez 3 douches par jour aux mains des arbres ou pas?
Non.
Vous n'êtes pas brésilien.
J'aurais pas le temps.
Et voilà, vous travaillez.
Sinon, il s'appellerait Romain des arbres.
Il y a juste un dernier point que je trouvais intéressant. Oui. Cristina Cordula a rappelé que faire attention à son apparence, donc son extérieur, c'est aussi avant tout booster son intérieur. Je trouvais que c'était intéressant comme point de vue.
Ben voilà. Oui, hein, prenez-en de la graine, Romain des arbres. Parfait, Philippine.
Merci pour cette découverte beauté. J'espère que vous avez passé un bon moment devant Bienfait pour vous aujourd'hui. Alors promis, on a encore plein d'autres choses à vous proposer demain. On sera de retour à 11h. Qu'est-ce qu'il y aura au programme, Mélanie ?
Demain, on va s'attaquer à un gros sujet. Chaque année, près de 1 jeune sur 5 en situation d'échec scolaire quitte le système éducatif sans diplôme. Des chiffres en hausse depuis la crise sanitaire. Pourtant, des solutions existent pour aider les enfants en difficulté scolaire. Encore faut-il trouver leur origine, leur cause et les accompagner de la bonne façon. On fera le point demain.